VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 4 septembre 2015. Morgane Guiriac et Anne Bertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin,
un soldat a été tué mercredi dans le centre du Mali.
Nous reviendrons aussi sur le sort des 7 djihadistes maliens présumés arrêtés en Côte d'Ivoire puis extradés vers le Mali.
L'armée nigériane a réintégré quelques 3000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte contre Boko Haram.
Au Liberia, l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de la transmission du virus Ebola.
Migration vers l'Europe, les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Luxembourg pour discuter de l'afflux de population traversant la Méditerranée.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Au Mali, un soldat a été tué et 7 autres blessés lors d'une attaque survenue mercredi dans le centre du pays. C'est la 2e attaque cette semaine contre des soldats maliens. Michel Joseph.
Les forces maliennes ont enregistré 1 mort, 7 blessés et 1 soldat porté disparu. Selon le communiqué officiel, un détachement de l'armée malienne est tombé dans une embuscade près de Diafarabé, dans la région de Mopti. Les assaillants ne sont pas encore formellement identifiés. La veille, mardi, 2 soldats ont été tués et 1 blessé dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012. Sous la coupe de groupes djihadistes, ils ont été dispersés en janvier 2013 après le lancement de l'opération Serval par la France. Malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et la rébellion, à dominance Touareg, les attaques des islamistes se sont étendues vers le centre et le sud du pays.
L'armée nigériane a réintégré quelques 3000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte contre Boko Haram. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, a précisé que 5000 dossiers ont été examinés et 3032 soldats ont été graciés, réintégrés et ont même débuté l'entraînement. Il a ajouté que les autorités militaires ont confirmé les condamnations de soldats qui avaient un dossier criminel sans préciser davantage. La justice nigériane devra décider du sort de 66 soldats condamnés à mort pour mutinerie et abandon de poste. Les condamnés ont déjà fait appel. L'année dernière, des militaires nigérians basés à Maïdigouri se sont même rebellés après avoir été assigné dans une région reculée pour combattre Boko Haram. Les épouses de ces soldats avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leurs maris comme chair à canon face à des islamistes mieux équipés.
Le Niger, le Tchad et l'Algérie vont tenir dimanche à Alger une réunion consacrée à la situation chez leurs voisins libyens, minés par les violences meurtrières et les rivalités politiques, a annoncé jeudi le ministre algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les négociations entre Libyens sous l'égide des Nations Unies ont repris jeudi à Genève et devraient se poursuivre vendredi, a annoncé l'ONU dans une note envoyée aux médias.
Lutte contre l'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de la transmission du virus au Liberia. Cela signifie que 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, se sont écoulés depuis que le dernier cas confirmé dans le pays a donné 2 tests négatifs. Le Liberia entre maintenant dans une période de haute vigilance de 90 jours, a ajouté l'OMS, saluant une vigilance accrue et une réponse rapide du gouvernement et des multiples partenaires. Toutefois, la prudence s'impose puisque le Liberia avait déjà été déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai. Le virus a réapparu fin juin, probablement à la suite d'un rapport sexuel avec un survivant du virus. 6 personnes avaient ensuite été contaminées.
En République démocratique du Congo, l'interdiction du documentaire « L'homme qui répare les femmes » suscite bien des réactions, à commencer par celle du principal intéressé. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, sur lequel porte le film, dénonce le climat d'oppression qui règne en République démocratique du Congo. Cette interdiction, estime-t-il, met en évidence la volonté du gouvernement de refuser au peuple congolais son droit d'accès à l'information dans le but de mieux le manipuler et le contrôler. L'homme qui répare les femmes est consacré à son combat en faveur des victimes de viol.
Et guerre civile au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui à la demande des États-Unis. Les combats se poursuivent sur place en dépit de l'accord de paix signé fin août à l'issue de 20 mois de conflit. Washington, qui a soutenu l'indépendance de ce jeune État, menace le Soudan du Sud de sanctions onusiennes contre les belligérants, accusant de violer le cessez-le-feu.
Élections communales et régionales au Maroc. Quelques 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. À un an des législatives, ces scrutins serviront de test pour le parti islamiste du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane.
Des dizaines de personnes ont été condamnées au Caire à de lourdes peines de prison pour des violences et des incendies d'églises perpétrés en 2013 suite à la dispersion sanglante d'un rassemblement de partisans de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Le point avec Dili Diko.
Un tribunal égyptien a condamné jeudi 22 personnes à la prison à vie, 37 à 15 ans de prison et 8 autres à 10 ans de prison. 52 autres prévenus ont été condamnés par contumace à des peines allant de 10 ans à la prison à perpétuité. La loi égyptienne prévoit un nouveau procès dans l'éventualité où les condamnés se rendraient. Selon un responsable du tribunal que cite l'AFP, les sentences sont liées aux violentes manifestations d'islamistes lors desquelles trois églises de la minorité chrétienne orthodoxe copte avaient été incendiées dans la province de Souag, dans le sud de l'Égypte. Ces violences faisaient elles-mêmes suite à la mort de plus de 700 manifestants pro-Morsi le 14 août 2013 lors de la dispersion d'un rassemblement par des policiers et des soldats au centre du Caire. Depuis la destitution du président islamiste, plus de 1400 de ses partisans ont été tués, des dizaines de milliers ont été interpellés et des centaines d'autres condamnés à mort dans des procès de masse qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Migration vers l'Europe, les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Luxembourg pour discuter de l'afflux de population traversant la Méditerranée. La France et l'Allemagne veulent imposer des quotas contraignants de réfugiés aux pays européens. Le président François Hollande plaide pour un mécanisme permanent et obligatoire. Les deux pays demandent aussi d'assurer le retour des migrants irréguliers dans leur pays d'origine et d'aider les pays d'origine et de transit.
Et dans un contexte de crispation croissante entre Européens, sur un continent où l'extrême droite ne cesse de progresser, l'Allemagne et la France ont lancé hier une initiative pour organiser l'accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe de ces familles qui fuient principalement ces guerres en Syrie. La rencontre d'aujourd'hui intervient alors que l'opinion a été secouée par la terrible photo d'un petit Syrien noyé. À noter que de son côté, le Québec se dit prêt à accueillir des centaines, voire des milliers de réfugiés syriens.
Ici aux États-Unis, Kim Davis, une fonctionnaire du comté de Rowan dans l'État du Kentucky, a été placée en détention jeudi pour avoir refusé d'appliquer la loi fédérale autorisant le mariage homosexuel dans le pays. Les précisions de Lucie Lamont.
En dépit de l'arrêt de la Cour suprême déclarant le mariage homosexuel légal aux États-Unis, Mme Davis refuse systématiquement de délivrer des documents de mariage aux couples homosexuels. D'après elle, délivrer un certificat de mariage à des personnes de même sexe viole ses convictions religieuses. Plaçant l'autorité de Dieu au-dessus de toute loi, Kim Davis explique qu'elle n'a pas d'a priori sur les homosexuels et qu'elle n'a pas de problème concernant les gays ou les lesbiennes. Mais il s'agit du mariage et de la parole de Dieu, dit-elle. David Moore et David Hermold, un couple d'homosexuels éconduits par Kim Davis, ont porté l'affaire en justice. Malgré sa popularité auprès de millions d'Américains, la fonctionnaire qui a été reconnue coupable par un tribunal de district général, une cour d'appel et la Cour suprême a donc finalement été emprisonnée jeudi.
Le président américain Barack Obama reçoit aujourd'hui le roi Salman d'Arabie Saoudite sur fond de désaccord face au conflit au Proche-Orient et sur le nucléaire iranien. Félix Epassi Zambrou.
C'est la première visite du roi saoudien à la Maison-Blanche depuis son accession au trône en janvier. Il s'agit pour lui de chercher à renforcer les relations entre deux alliés stratégiques, mais des désaccords subsistent. Le roi Salman n'avait pas pris part au sommet organisé en mai à Camp David par Barack Obama en vue de rassurer les pays du Moyen-Orient avant l'accord sur le nucléaire iranien. Concernant le conflit en Syrie, Riyad perçoit Bachar al-Assad, soutenu par l'Iran, comme une extension de la rivalité perse-arabe. D'après Ben Rhodes, conseiller de M. Obama, les États-Unis cherchent à isoler les extrémistes au sein de l'opposition syrienne. Autre pomme de discorde entre Riyad et Washington, le Yémen, où les rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, affrontent les loyalistes appuyés par l'Arabie saoudite, alors que Washington craint l'impact des frappes aériennes sur les civils. Enfin, les États-Unis ont fortement réduit leur dépendance vis-à-vis des importations de pétrole brut, ce qui a contribué à la baisse des prix de l'or noir, principale source de revenus pour Riyad.
Enfin, à signaler qu'ici, aux États-Unis, une fusillade dans une université de Sacramento a fait un mort et deux blessés jeudi, a indiqué la police de la capitale californienne qui recherchait activement le suspect.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Lucie Lamont.
À Lagos, le géant pétrolier Shell a annoncé mercredi la réouverture de deux oléoducs stratégiques dans le sud du Nigeria. Ceux-ci avaient été fermés après une tentative de vol de pétrole la semaine dernière. Les fuites causées par les vols et les sabotages représentent des pertes de revenus de 6 milliards de dollars par an pour le Nigeria. Selon le FMI, le retour de l'Iran sur le marché mondial ajoutera 1 million de barils par jour, faisant baisser les prix de 10 dollars par baril l'année prochaine. Une nouvelle baisse des prix qui pourrait être catastrophique pour le Nigeria, déjà très affecté par la situation actuelle. Les pays développés sont aussi affectés. Le Canada est entré en récession à la suite de l'effondrement des investissements des compagnies pétrolières et le licenciement de plus de 20 000 personnes dans une province pétrolière de l'Ouest, en Alberta. Au Swaziland, le ministre du Commerce a déclaré que les entreprises locales doivent examiner les possibilités d'utiliser les marchés voisins, notamment le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il a souligné que la taille de ces deux pays combinés est proche de 75 millions de personnes. Le récent assassinat de Cécile Le Lion a attiré une vague d'aide chinoise à lutter contre le braconnage au Zimbabwe. Le gouvernement chinois a fait un don de 2,3 millions de dollars. Un groupe se faisant appeler la fondation de l'association Sinozim Wildlife a également fourni du matériel anti-braconnage équivalent à plus de 100 000 dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Lucille Hamon. Et on enchaîne sur les sports avec Bagassi Kora. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
Le CF Mounana remporte la Coupe du Gabon.
Oui, le CF Mounana a battu 2-1 l'AFJ Libreville de 2e division en finale hier au stade Augustin Monenda de Sibang dans la banlieue de Libreville. C'est son 2e trophée après celui de 2013.
Et on enchaîne sur le tout dernier classement FIFA.
Oui, l'Argentine est toujours en tête devant la Belgique et l'Allemagne. En ce qui concerne les équipes africaines, pas de changement pour l'Algérie qui reste 19e nation mondiale. La Côte d'Ivoire est 21e. Le Rwanda fait la meilleure progression en Afrique en partant de la 91e à la 78e place. Le Ghana vient à la 27e place. La Tunisie est 33e. Le Sénégal 38e. Le Congo et le Cameroun sont 42e. Et l'Égypte est 49e. Recul pour le Cap-Vert, 56e. Et la République démocratique du Congo, qui est à la 65e place. Ces deux pays perdent chacun 6 places.
C'est le Togo qui lève dès demain le rideau de la 2e journée des qualifications de la CAN 2017.
Oui, et la tâche des éperviers devrait être facile hein, puisqu'ils affrontent le modeste Djibouti, ce qui leur permettra de prendre seuls les commandes du groupe A devant la Tunisie, leur principal concurrent qui avait écrasé Djibouti 8-1 et qui défie samedi le Libéria à Monrovia. 52 nations disputent ces éliminatoires réparties en 13 groupes de 4 équipes. Les premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la CAN 2017 ainsi que les deux meilleurs deuxièmes ainsi que le Gabon, qualifié d'office en qualité de pays organisé.
Au Brésil, 20 ans de prison pour 3 supporters de football.
Oui, les 3 accusés, respectivement de 23, 30 et 34 ans, ont été condamnés mercredi soir pour le meurtre de Paulo Ricardo Gomes da Silva, âgé de 26 ans, à l'issue d'un match de 2e division. C'était le 2 mai 2014, selon la presse brésilienne.
En cyclisme, 12e étape du Tour d'Espagne.
Oui, et c'est le Néerlandais Danny Van Poppel qui a remporté au sprint cette 12e étape entre Escaldes Engordany en Andorre et Lleida. L'Italien Fabio Aru conservant son maillot rouge de leader.
Et c'est l'abandon pour Chris Froome dans le Tour d'Espagne.
Le Britannique a été contraint à l'abandonner en raison d'une fracture à un pied, a-t-il annoncé jeudi sur son compte Twitter avant le départ de cette 12e étape de la Vuelta. Froome espérait devenir le 3e cycliste à réaliser un doublé Tour de France Vuelta la même année, mais il a chuté ce mercredi lors de la 11e étape, considérée comme l'étape reine de la Vuelta avec 5 grandes ascensions. Il avait ainsi concédé 7 minutes sur le leader au classement général, l'Italien Fabio Aru, abandonnant toute chance de victoire finale.
Voilà pour les sports. Merci Bagassi.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek au micro, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie d'émission. 7 djihadistes maliens présumés ont été arrêtés en Côte d'Ivoire et extradés vers le Mali. Les suspects seraient tous membres de la Katiba, appelée Khalid Ibn Walid. Cette unité combattante est dirigée par un certain Souleymane Keïta, qui serait ivoirien, selon Moussa Ouattara du journal Nord-Sud, joint à Abidjan par Idriss Fall.
L'imam Keïta Souleymane, d'abord c'était un ivoirien, il officie dans une cité à 13 villes, quartier d'Abidjan.
Et comment est-ce qu'un imam ivoirien de 13 villes a pu se retrouver au niveau des mouvements djihadistes?
Depuis l'éclatement de la crise au Mali, nos frontières sont poreuses. Donc ces personnes-là ont certainement eu un contact avec cet imam. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois de cela, il y a un responsable du MLA qui a été arrêté même à l'aéroport d'Abidjan ici. Il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire a des liens historiques avec le Mali. Les gens se déplacent facilement. Il y a le contexte de l'après-crise en Côte d'Ivoire. La question des ex-combattants n'a pas été totalement résolue. Et donc, ces personnes-là sont prêtes à aller dans les aventures. On les sollicite, ils n'hésitent pas à aller.
Le nord de la Côte d'Ivoire est essentiellement musulman. Est-ce qu'il pourrait y avoir danger ou bien des cellules islamistes?
Le danger, il est réel. Parce que les services de sécurité et de renseignement ont même fait l'État, pas le président de la République, a pris un certain nombre de décisions, notamment en renforçant le dispositif sécuritaire à l'envoi de 150 militaires, premier BCP, qui est le bataillon commando parachutiste, au niveau de la frontière avec le Mali, notamment à Oudéné et à Ouangoulou-Douvou. C'est dans cette perspective de prévention du risque d'une éventuelle attaque. Ces dispositions ont été prises. Les frontières étant poreuses, le nord de la Côte d'Ivoire, qui est essentiellement musulman, on va dire que le terrain, il est propice parce que, bon, les gens sont réceptifs au discours et au message prôné par ces personnes-là, les djihadistes.
D'autant qu'il n'y a pas longtemps, une quinzaine de personnes ont été arrêtées et se présentaient comme des membres de la secte Dawa dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Et c'est précisément à Tingrela. À Tingrela, ça c'est la frontière nord avec le Mali.
Moussa Ouattara du journal Nord-Sud, joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Burkina Faso, les 16 candidats retenus pour la présidentielle ont jusqu'au 6 septembre pour déposer des recours devant le Conseil constitutionnel. Hervé Ouattara est le président du CAR et l'un des leaders de la société civile burkinabé. De passage à New York, il répond aux questions de Bagassi Koura.
Concernant le présidentiel et les listes invalidées, le Conseil constitutionnel est une institution, j'allais dire, indépendante. Elle sait ce qu'elle fait. La décision qu'elle a prise, c'est dans le sens de l'application des textes au Burkina Faso. Donc moi, je ne peux qu'être satisfait.
Et donc, ces 16 noms vous conviennent parfaitement ou est-ce qu'il faudrait encore des recours pour écarter certains?
Alors, je pense que c'est au Conseil constitutionnel d'en décider. S'il s'arrête aux 16 noms, c'est tant mieux. S'il pense encore qu'il y a des gens qui doivent suivre, j'allais dire, le cours de nos textes, qu'il en soit ainsi. C'est au Conseil constitutionnel de décider.
Mais vous, au niveau de la société civile, vous n'avez pas de problème avec une candidature de Yacouba Ouédraogo ou de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé?
Vous savez, la société civile, aujourd'hui, nous sommes respectueux, j'allais dire, de nos textes au Burkina Faso. Nous avons demandé à ce que le Conseil constitutionnel statue sur un certain nombre de candidatures. Le Conseil constitutionnel l'a fait. Il y a des listes qui ont été invalidées. S'il y a des listes qui ont été acceptées, nous conformons à la décision du Conseil constitutionnel.
Concernant ces élections présidentielles notamment, est-ce qu'au niveau de la société civile, vous avez un certain nombre de préoccupations auxquelles vous voudriez que les candidats répondent clairement?
Je crois que ce que nous pouvons demander d'abord aux candidats, c'est de respecter le peuple burkinabé, de respecter le choix du peuple burkinabé. Ce qui sortira des urnes, que chacun s'en tient à cela. Parce que vous savez, aujourd'hui, le peuple a pris son destin en main, nous avons fait un travail. Nous avons demandé que enfin notre pays puisse connaître ce qu'on appelle une démocratie véritable et nous nous battrons pour cela. Maintenant, s'il y a des personnes qui souhaiteraient organiser une violence quelconque dans le pays afin de dérouter les élections à venir, alors la société civile va s'opposer à cela. Et nous allons nous mettre devant ces personnes-là pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs.
Est-ce que les candidats doivent aussi prendre position sur la question du RSP?
Bien sûr, chaque candidat doit savoir aujourd'hui que la question de l'armée est une préoccupation pour tout le monde. Pour tout le peuple. Par conséquent, ils doivent savoir mettre dans leur programme ce qui serait, j'allais dire, du RSP après les élections du 11 octobre. Parce que nous ne voulons plus quand même des militaires qui prennent en otage des civils. Donc que cela soit clair pour tout le monde, pour qu'on ne soit plus dans la même situation qu'on a connue de par le passé.
Et vous savez que la société civile burkinabé a été saluée partout dans le monde comme un exemple depuis la chute de Compaoré. Qu'est-ce que vous allez faire après ces élections en octobre?
Alors, disons que nous allons toujours jouer notre rôle de veille. Nous allons travailler de sorte à ce que notre pays soit, j'allais dire, toujours cité. Et pour cela, nous allons veiller sur nos institutions. Nous allons travailler également à renforcer la démocratie.
Hervé Ouattara, président du Citoyen africain pour la Renaissance, mouvement de la société civile burkinabé. Et nous partons maintenant au Burundi. Le gouvernement appelle les citoyens à remettre leurs armes qui exacerbent l'insécurité dans les quartiers contestataires. Il demande aux Burundais également de se désolidariser de ces groupes armés et qualifiés de criminels. Le point avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Pour la première fois, quatre ministres ont fait une conférence publique commune pour pointer du doigt les hommes armés qui causent l'insécurité dans les quartiers contestataires du troisième mandat. Dans un délai ne dépassant pas 3 semaines, ces personnes armées qui tirent la nuit venue ont été priées de remettre leurs armes aux responsables en charge de la sécurité. Ainsi, ils ne seront pas condamnés par la justice burundaise. Le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Boyoni, a indiqué que d'autres mesures seront prises pour garantir la sécurité des citadins.
Premièrement, c'est un travail synergique que l'on fait à travers les comités mixtes de sécurité humaine qui sont composés effectivement par les forces de l'ordre, l'administration, la justice et la population. Et cela effectivement se passe à travers les missions dévolues à chacune des composantes de ces commissions mixtes de sécurité. Il y a des missions qui sont dévolues à la défense, à la sécurité, il y a des missions qui sont dévolues à l'administration du territoire, à la justice. Il y a des déploiements qui sont faits, il y a des missions de perquisition qui sont faites, il y a des missions de prévention qui sont faites par les forces de sécurité, les forces de défense en cas de besoin. Il y a d'autres mesures qui ne peuvent pas vous être communiquées. Ce sont des mesures qui se connaissent en fait après les faits.
Depuis les manifestations du mois d'avril dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées et sont actuellement détenus dans les différentes prisons du Burundi. Mais parmi elles, il y aurait des innocents. Pour la ministre de la Justice, le moment venu et après étude des différents dossiers, les innocents seront libérés conformément à la loi, Laurentine Kanyana.
Sur cette question alors, je vous demanderai de patienter un peu. On est à l'œuvre, on va continuer à travailler sur ces dossiers et on va essayer de respecter les délais prescrits par la loi. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura personne qui sera retenu par la justice, qui sera condamné alors qu'il est vraiment innocent. L'innocence est prouvée par le juge, mais aussi, je vous ai dit que le ministère public instruit à charge et à décharge. Tout va passer par la procédure prescrite par la loi.
Depuis 2 jours, l'insécurité est devenue grandissante dans certains quartiers de la ville. Des tirs nourris sont observés à Jabé, Nyakabiga et Moussaga. Cet ultimatum des autorités de Bujumbura est donné au moment où 4 personnes ont été tuées et des dizaines de personnes sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, la rentrée, c'est lundi prochain, mais de nombreux parents ne sont pas encore prêts, notamment pour des raisons financières. Reportage de Bureau Matanda de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prévu au 7 septembre prochain, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la reprise de cours pour les bleus et blancs doit être effective selon les autorités de la ville. Dans les écoles, on se dit prêt pour accueillir les écoliers dès les premières heures du lundi matin. Ngomanzao César est préfet des études à l'Institut Pumbu, situé à l'UPN dans la commune de Ngalima.
Nous sommes prêts à accueillir les enfants les jours de la rentrée. La première chose que nous faisons pour notre préparation, c'est de faire l'état des lieux, mettre la propreté dans la cour, dans les locaux. Au bureau, nous arrangeons un peu les archives, nous mettons de côté et puis nous allons renouveler les dossiers pour cette année ici. Arranger pour préparer aussi la rentrée des enseignants, certains élèves. Nous les préparons déjà qu'ils ne puissent pas prolonger les jours de vacances.
À quelques jours de cette rentrée scolaire, certains parents ne sont pas encore en mesure d'acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants à cause du manque d'argent.
Je ne suis pas prêt en tout. Je n'ai pas d'argent pour préparer la rentrée scolaire, pas de cahiers, le tout. Bref, la rentrée pour moi, c'est déjà un échec. À moins qu'un miracle du ciel puisse se faire. Et les enfants sont dans la détresse parce que jusque-là, ils ne voient rien.
Non, à moitié. Puisque là, vous savez, la semaine passée, j'étais au grand marché pour essayer les uniformes de l'enfant. De mettre un mètre pour l'uniforme bleu, c'était à 3000 francs. Et on se dit, c'est à 5000 francs. Uniforme blanche, un mètre, c'était à 1000 francs. On se dit, c'est à 2000 francs. Donc, moi, j'ai trois enfants. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Puisque là, je suis prête seulement pour un enfant et demi. Donc, j'ai tout acheté pour un enfant. Pour le deuxième, j'ai juste acheté des cahiers. Pour le troisième, je n'ai pas acheté. Et pour l'autre deuxième, là, j'ai acheté uniquement des cahiers. Est-ce que vraiment, monsieur le ministre, marquez un mois, pouvez-vous même pas demander aux vendeurs des tissus d'uniformes ou bien de baisser le prix? Dans les écoles, là, on vend les uniformes très chers.
Pas tout à fait prêt. Oui, d'ailleurs, je viens de faire quelques achats. Je n'ai pas pu tout acheter.
Pour les vendeurs des fournitures scolaires, la difficulté est tout autre. La tracasserie policière occasionne beaucoup de pertes dans leurs ventes. Difficile pour eux aussi de réunir l'argent nécessaire pour envoyer leurs enfants à l'école.
Les agents de l'ordre nous tracassent tous les jours. Nous ne savons même plus bien vendre. Nous sommes appelés à être sur le qui-vive parce que nous ne savons pas par où ces agents peuvent surgir. Il n'y a même pas moyen d'exposer tous les articles par crainte de les perdre. Nous sommes aussi parents. Si nous ne vendons pas, nous ne saurons pas retourner nos enfants à l'école. Que les autorités fassent quelque chose.
Entre-temps, la rentrée des classes en RDC est maintenue pour le 7 septembre prochain. Kinshasa, Béro Matanda de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, le président a demandé à son nouveau gouvernement qu'il vient de former le 23 août de supprimer les primes et indemnités des agents de l'État. Décision que boudent les organisations syndicales du pays. Reportage de André Kodmajingar.
Les fonctionnaires tchadiens tirent le diable par la queue. La cherté de vie est telle qu'ils arrivent difficilement à s'offrir un repas par jour. En dépit de cela, le président de la République Idriss Déby Itno vient de demander à son gouvernement, au cours du Conseil des ministres du 26 août 2015, de suspendre les primes et indemnités des agents de l'État. Cette mesure, semble-t-il, vise à faire face à la conjoncture économique mondiale due à la baisse du prix de baril sur le marché international. Cette décision va créer une tension sociale, estime le président du Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad et vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, Younous Mahadir.
Les indemnités que nous autres avons obtenues, c'est un protocole d'accord qu'on a signé en bonne et due forme avec le gouvernement. Et il y a des organes qui sont créés pour pouvoir régler en cas de blocage ou de quoi que ce soit. On ne peut pas, parce qu'on est président de la République, on s'élève, on vient, on dit qu'on coupe. Est-ce qu'il va y avoir un affront avec les travailleurs? C'est une provocation. Hein? Mais je pense que ceux qui le conseillent sont en train de l'amener dans une voie carrément dangereuse pour lui, avec la question d'argent, des salaires, des indemnités, s'il joue ce qu'il joue avec le feu. Les manifestations qui ne veulent pas, là, ils vont les avoir.
Le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration générale du Tchad, Mahamat Hissen, demande au président de la République de renoncer à cette mesure. Car, dit-il, la situation des fonctionnaires tchadiens est peu reluisante.
Sur le plan national qu'international, les gens savaient que les fonctionnaires tchadiens vivaient dans des situations lamentables. Puisqu'ils n'arrivaient pas à s'inscrire son enfant à l'école, il n'a pas un logement décent. Donc moi je trouve que c'est des propos déplacés. Dès que l'acte sera matérialisé, il va nous trouver sur son chemin. La Constitution nous donne le droit de demander à nos différentes sections d'aller automatiquement en grève.
Pour le 7 syndicat des anciens du Tchad, ces primes et indemnités sont des acquis obtenus au prix d'une longue lutte et donc il n'est pas question de les perdre pour une raison quelconque. Bolmari Ngolao est le secrétaire national à l'information du 7.
Si l'État est en état de banqueroute, il doit chercher autre moyen pour résoudre le problème. Mais quant à vouloir retoucher les acquis, surtout en ce qui nous concerne, nous autres syndicalistes, ces primes et indemnités, nous savons comment nous les avions obtenues. Et si jamais nous les perdons, eh bien nous saurons comment nous pouvons donc les rétablir.
Toutes les organisations syndicales qualifient cette mesure d'impopulaire et dénoncent la mauvaise gestion de la chose publique et le manque de fonds de stabilisation du prix du pétrole pouvant permettre au Tchad d'amortir le choc économique. Par conséquent, telles ces organisations, il n'est pas question de sacrifier les agents de l'État pour la mauvaise gestion économique du pays. André Kodmajingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
C'est tout pour cette édition. Annette Borson a dirigé la mise en onde. Présentation Martine Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. Vous retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.